bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on est mercredi 1er novembre et on a donc trois choses importantes à vous dire. La première, il faut arrêter de fumer, c'est important. C'est le mois sans tabac qui commence et donc tous les podcasts que j'ai enregistrés pendant ce mois comme l'année dernière, je vais vous parler du fait que j'ai arrêté de fumer et je vais essayer de ne pas faire long, je vais juste vous dire trois choses. La première, arrêter de fumer, c'est très facile. Oui, je sais. Mais arrêter de fumer, c'est très facile. La deuxième, c'est très facile quand on suit le programme officiel avec les patchs qui sont dégressifs progressivement jusqu'au moment où on est complètement sevré. C'est sans douleur et c'est sans volonté. Et à un moment, on se retrouve, on fume juste plus. D'ailleurs, on fume plus dès qu'on commence à mettre les patchs. On n'a plus du tout envie, on fume plus. Et c'est remboursé par la Sécu, si vous êtes en France. Donc parlez-en à votre médecin, en plus il va vous suivre, tous les mois il va vous prescrire une boîte avec le nouveau grammage. Vous avez aussi Tabac Info Service, qu'il ne faut surtout pas oublier parce qu'ils sont fabuleux, et qui sont vraiment bien, c'est des vrais tabacologues gratos avec qui vous pouvez discuter. Donc voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je n'entends jamais parler des patchs, et je ne comprends pas, ça fait 50 ans que les patchs existent, 50 ans que ça fonctionne très bien, 50 ans qu'ils n'ont pas changé la recette, parce que ça marche très très bien. Vous commencez à un pourcentage, genre 21 mg, et puis le mois suivant, vous passez à 14 mg, et puis le mois suivant, vous passez à 7 mg, et après, vous arrêtez, parce que bah, c'est le dernier petit pas, il n'y a plus rien, vous n'avez plus du tout envie de fumer, ça fait déjà 3 mois que vous ne fumez plus, ça s'arrête tout seul. Voilà, donc, je vous le dis, vous pouvez même le faire en 6 mois, moi je l'ai fait en 5 mois, c'est-à-dire que certains mois, j'étais pas prêt, donc j'ai dit, ah, je reste encore sur mon grammage pendant un mois. Aucun problème, j'ai arrêté de fumer au bout de 20 jours. Sinon, c'était une cigarette tous les jours ou tous les deux jours. Et puis après, j'ai complètement arrêté au bout de 20 jours. Je suis passé au bonbon à la menthe et c'était beaucoup mieux. Voilà, je vous le dis parce que j'ai été un très gros fumeur pendant 20 ans. Et que bah, je me suis arrêté comme ça. Et vraiment, zéro difficulté. Et moi, c'est le jour où on me l'a expliqué que j'ai compris qu'en fait, c'était simple et que je l'ai fait. Et je vous le confirme, c'est simple. Allez voir votre médecin, parlez-en. Fin. Deuxième chose, c'est la Toussaint. On pense à nos morts, et notamment à Matthew Perry, qui est mort, et qui est l'acteur de Friends. Tout le monde a entendu parler, tout le monde a sa petite larme, parce que Friends, c'était vraiment universel, et Chandler Bing, voilà, dans nos cœurs. Et j'avais juste envie de dire deux choses à son propos à lui. La première, c'est que il a détesté jouer Chandler Bing, voilà, il l'a témoigné, il avait des énormes angoisses, il se sentait très très mal, il se sentait illégitime, il n'était pas bien, mais bon, comme il dit, il a été un acteur, et il a fait son travail, donc merci à lui, pour avoir donné vie à ce personnage qu'on aime. Il faut différencier l'acteur qui n'a pas fait une très grande carrière après, et qui n'a jamais réussi à percer par la suite, et c'est dommage parce qu'il a travaillé sur des très beaux projets, mais qui n'ont pas vu le jour ou qui ont été arrêtés très vite, et le personnage qui est celui qui est dans nos cœurs et qui lui est immortel. Mais on peut avoir énormément de gratitude pour l'acteur. Et la deuxième chose, c'est que Matthew Perry a vécu une vie entière d'addiction à l'alcool et aux médicaments, de laquelle est sortie deux choses. La première, c'est une expertise de ses luttes contre l'addiction. Et la deuxième, c'est la Perry House, qui est une maison qui a accueilli des centaines de personnes addictes et qui les a soignées. Et Matthew Perry a dit dans son livre qui est sorti il y a un an, que tout le monde cite dans la presse, hein, j'ai pas lu le livre, il dit, je crois vers la fin du livre, je voudrais qu'on se souvienne de moi, non pas pour Chandler Bing, mais pour Matthew Perry, celui qui a aidé beaucoup de gens à s'en sortir. Et je voudrais qu'on garde ça en tête, parce qu'on a complètement, on est passé à côté de lui. Donc si vous avez de la tendresse pour ce décès-là, eh ben, on est passé à côté de tout le bien qu'il a amené à l'humanité. Et je voudrais qu'on ait un instant de gratitude pour une personne qui a fait autant de bien dans sa vie. Voilà, c'est tout. Et la troisième chose, je vous prends un peu de temps, mais bon, la troisième chose de ce 1er novembre, c'est la sortie de la formation, mini-formation gratuite, un MOOC, donc Massive Online, Bref, des cours en ligne gratuits que vous pouvez consulter sur le Cercle des rédacteurs sur la rédaction hybride. Et ça, j'ai très envie de vous en parler parce que c'est mon dernier bébé. Il y a 15 vidéos dedans, un peu plus, mais 15 vidéos importantes de sujets importants. 10 sur la technique, 5 sur le fond. Et c'est tout ce qu'on peut donner à un rédacteur web compétent. Compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un peu de bagage, qui a déjà écrit. Il ne faut pas commencer par ce truc. Hein. C'est vraiment lui expliquer comment l'intelligence artificielle va surbooster tout son travail. L'idée, ce n'est pas de vous vendre une formation rédacteur augmenté. C'est pas la même chose, je l'explique dans une des vidéos du MOOC. C'est des choses totalement différentes. Pour faire simple, le rédacteur web hybride utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ses process de travail. Le rédacteur augmenté a des process de travail qui sont complètement différents et totalement démesurés par rapport au rédacteur web hybride. C'est-à-dire que le rédacteur web augmenté utilise l'intelligence artificielle comme une agence de communication qui travaille avec lui. Donc c'est pas la même approche du tout. Alors que le rédacteur web hybride va demander des meilleurs titres, des meilleurs contenus, une meilleure structure, des meilleurs résumés, etc. Et je vous ai mis toutes les informations justement pour que tout le monde passe le cap de l'intelligence artificielle. Donc je vous recommande la formation rédacteur hybride qu'on propose. On l'a appelée Next Generation parce que je suis fan de Star Trek. Et parce que surtout il y a le mot génération, génération de contenu, tout ça. Bref. Donc voilà, et je vous recommande ça, c'est sur le cercle des rédacteurs, allez faire un tour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autre chose, je vous ai pris 6 minutes de votre vie pour plein de trucs pas utiles, mais quand même, je pense que chacune de ces choses a nourri un peu votre âme et vous a fait grandir, et j'apprécie cet instant, même si j'y crois à moitié. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui inquiète tout le monde, vraiment. C'est Google SGE. Et globalement, derrière ça, j'ai envie qu'on aille réfléchir un petit peu à notre principale source de revenus indirect, qui est le moteur de recherche Google. C'est important de comprendre d'abord que Google est au centre de tout le système économique du freelancing actuel. Pour une raison toute simple. On a un site internet et on a besoin qu'on nous trouve. Donc Google est un des canaux principaux. Google, c'est un portail qui permet d'explorer le net en ayant classé des milliards de pages, qui représente 16% seulement du web. En réalité, c'est pas qu'il a pas fait les autres, c'est que les autres lui sont pas accessibles parce que c'est de l'intranet ou du darknet. Mais globalement, voilà, ou du dark social, c'est-à-dire les messageries, les mails, tout ça. Donc, il n'a pas accès à tout. Mais il essaye, hein, mais il n'a pas accès à tout. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Les gens commencent par Google. 80% des usages sur Google, sur Internet commencent par Google. Ou alors, on a un raccourci. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas tapé une URL qu'on vous a donnée ? Donc, on s'envoie des trucs un petit peu par mail. Vas-y, clique là-dessus. Mais globalement, Google, c'est la porte d'entrée. Donc, on passe par ce moteur de recherche. Et ce moteur de recherche redistribue les fréquences, les fréquentations, en fonction des différentes demandes, des différentes attentions, intentions. Et donc, Google, en termes de tracking, vous comprenez, en termes je vais essayer de réorganiser un peu mes pensées parce que je reçois des notifications de l'autre côté alors que j'ai mis sur veille. Ah, tu me l'as déjà donné 3 fois, celle-là. Bref, pardon, c'est terrible. Les montres connectées, c'est terrible. Ça devrait pas. Des fois, ils vous envoient une notification pour vous dire « Hey, t'as pas envie de te lever ?» Et tu dis « Putain, j'étais en train de bosser !» C'est trop bien. On paye pour ça, hein. On paye pour ça. Hey, t'as pas envie de te lever ? Mais tu m'interromps. Bref, donc, à un moment donné, peut-être qu'on fera des choses plus intelligentes qui nuiront moins à notre capacité d'attention. Prudence, prudence avec les notifications. Je reviens sur mon sujet. Donc, Google, pour pouvoir vendre son service le plus possible, a bien sûr optimisé son tracking. C'est-à-dire que le but, c'était de vendre un produit de meilleure qualité à ses vrais clients, qui sont les annonceurs. D'accord ? C'est pas vous le client, vous êtes le produit. Donc Google, il a besoin de vous classer assez finement pour pouvoir avoir un effet positif. En gros, Google, il promet une chose. Il dit, si tu me donnes de l'argent, il parle à l'annonceur, si tu me donnes de l'argent, je te donne de l'argent. Réfléchissez bien à ça. Si tu me donnes de l'argent, je te donne de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent de Google qui donne. Il donne l'argent de ses utilisateurs. Google ne dit pas « je t'autorise à faire de la publicité sur mon réseau ou sur mon moteur de recherche ». Il dit « je vais te faire faire de l'argent ». Tu vas gagner de l'argent si tu me donnes de l'argent. C'est la meilleure promesse qui existe au monde. Si vous faites une pub sur Google, arrête les notifications, bon sang. Si tu fais des publicités sur Google, tu vas avoir un taux de retour qui va être le plus optimisé possible. Google travaille actuellement sur des intelligences artificielles qui écriraient pour toi la publicité que tu veux faire en l'alignant complètement d'un point de vue marketing avec les besoins du public. Donc, la personne tape une requête, elle tape « voyage pas cher » et elle reçoit des publicités qui ont une idée déjà de quel voyage elle veut faire parce qu'elle en a déjà discuté dans ses mails ou qu'elle a déjà été sur 2-3 sites pour étudier ça. Et donc, elle voit des voyages qu'elle cherche avec des tarifs qui s'affichent et ce n'est pas le résultat de la recherche. Ça, c'est les gens qui ont payé. Mais ils ont payé cher pour ça, ils ont payé 100 euros. Si elle clique dessus, ils perdent 100 euros. Mais ils vendent quasiment tout le temps le produit parce que Google a mis des trackers partout, y compris sur le site de la personne. Il y a du tracking absolument partout et Google se donne la mission d'optimiser la vente. Et ça, bah pour tous les utilisateurs, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, je tiens à vous ouvrir l'esprit sur ce sujet-là. Vous avez le droit d'utiliser Google pour vendre des textes et passer devant les plus grosses plateformes, TextBroker et compagnie. Vous pouvez passer dessus sur des requêtes clés qui intéresseraient vos clients. Donc, il faut juste trouver les bonnes requêtes. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider. Mais en tout cas, c'est important de réfléchir de cette manière-là. Google donne de l'argent si on lui donne de l'argent. Et j'ai encore la même notification. C'est très intéressant ce concept. C'est très intéressant de se faire harceler par la même notification. C'est une date du calendrier. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça apparaît qu'une seule fois. Là, ça apparaît en boucle. Bon. Et j'imagine que ça sent la mise à jour. Bref. Donc, Google fonctionne comme ça. Et Google a un deuxième business model qui repose sur le fait de créer du trafic parce qu'il doit augmenter sa masse. Donc d'abord, il vous traque à fond pour pouvoir permettre de générer des ventes lorsqu'on veut vous cibler. Alors là, juste avant de passer à la suite, c'est pas grave qu'on vous cible. C'est pas grave qu'on ait des informations sur vous. La question, c'est sous quelle forme elles sont. Est-ce que vous êtes identifié? Est-ce que quelqu'un peut utiliser ça contre vous? C'est là les questions. Mais c'est pas grave sinon. Parce que justement, ça vous permet d'avoir des choses qui vous intéressent. Sinon, on va targeter, vous savez, vous baladez dans la rue et vous regardez les panneaux publicitaires. Il y en a combien devant lesquels vous vous arrêtez pour les lire en entier? Quasiment pas. Parce que les panneaux publicitaires ciblent des quartiers en espérant qu'ils ne se soient pas trop trompés sur le fait qu'il y ait une proportion suffisante de gens sur ce quartier. Par exemple, quand il y a une nouvelle série, je sais pas, tiens, c'était Spotify, j'ai entendu ça à un moment donné, Victor Bonnefoy, qui avait fait un podcast qui s'appelle L'Employé sur Spotify, que j'ai écouté et qui est vraiment bien. Voilà, c'est L'Employé, ça va vous accrocher tout de suite. C'est hyper intéressant. Donc, voilà, et c'est tout. Enfin bref, c'est un truc dystopique extraordinaire. Rare, des trucs de cette qualité-là, ça fait plaisir. Et donc, bah, il en parlait, il disait, il y avait de la publicité partout, dans le métro et dans les arrêts de bus à Paris. Moi, je ne me souviens pas avoir vu ça, ou avoir vu dans ma ville, qui est une ville secondaire, même si c'est la plus grosse, une des plus grosses de mon département, et de ma région d'ailleurs, c'est pas non plus une ville majeure. Donc j'ai jamais vu de publicité pour ça, parce que tout simplement je pense que on est un ancien bassin minier, on n'a pas d'université, on n'a pas de grandes écoles ici, on a assez peu de métiers intellectuels, même si on a un pôle ingénierie qui est extraordinaire, qui s'appelle le Technopole 2000, et qui a, enfin on fabrique des pièces pour la NASA là-bas. Il n'empêche que le public n'est pas vraiment là. C'est comme le fait que 80% des librairies sont en zone parisienne. Donc c'est pour ça qu'on a aussi été un peu surpris quand tout le monde a manifesté pour que les librairies restent ouvertes, sachant que nous, on n'en avait plus depuis très longtemps. Donc, et qu'on allait déjà en supermarché acheter nos livres. Donc, C'est juste pour dire que le targeting par zone, comme ça, il a du sens. Mais imaginez quand même que c'est un peu au petit bonheur la chance et qu'on essaye de cibler des endroits là où il y a du trafic pour espérer capter des gens et des intérêts. Bref, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment bonne chance. C'est comme ceux qui arrêtent les gens dans la rue en disant « Bonjour, bonjour, vous avez besoin de ci ou de ça ?» Bon, bah c'est pareil, c'est au petit bonheur la chance. Faut vraiment réussir à tomber sur la personne qui est vraiment OP pour ça, quoi. Mais bon, donc, on est là-dedans. Et jusque-là, en fait, le targeting était assez simple. Dire, on offrait un produit que les gens veulent utiliser, à savoir un moteur de recherche hyper qualitatif, bien meilleur que tous les autres. Et en échange de ça, on va vendre des espaces pubs sur les résultats de recherche. En soi, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, Google, il faut quand même lui reconnaître, même si c'est souvent discuté, qu'il influence assez peu, pour des raisons politiques ou économiques, les résultats de ses recherches. On n'a pas vraiment de gens qui peuvent payer pour que le résultat naturel change. Mais ils vendent les espaces à côté. Mais imaginez, vous pourriez très bien dire, bah, moi je voudrais que ce soit ma boutique qui passe devant Amazon, je vous donne 1 million par mois. Ça, c'est rentable, hein, on passe devant. Mais non, on ne peut pas, à ma connaissance, négocier les résultats de recherche. Peut-être que si, il y a eu déjà des questions sur est-ce que Google est de droite ou de gauche, ils ont fait des recherches, ils ont vu qu'il y avait plus souvent les trucs de Trump qui sortaient, ou à l'inverse, qu'il était plus souvent censuré. Bref, c'est possible. En tout cas, on n'en est pas là. Donc, le business model de Google, c'est de dire, je fournis des adresses de sites internet qui répondent le plus exactement possible à la question de la personne. La personne est venue avec une question. D'accord ? C'est important comme notion. Donc ça, c'est son deuxième marché. Réussir à optimiser au maximum, rester numéro un dans le trafic, pouvoir réussir à récupérer de la data pour mieux targeter derrière, mais aussi pour mieux comprendre les tendances, pour pouvoir alimenter tous les autres réseaux, parce qu'ils ont accès à ce que les gens cherchent, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les tendances du marché. Ils ont accès à tous les désirs des clients. Ils peuvent lancer des produits en sachant ce que les gens veulent. C'est comme ça qu'ils lancent des téléphones qui ont des très bonnes réputations. Ils récupèrent des trucs. Je veux dire, il y a de la data. Il y a beaucoup de data sur ces choses-là. Ils savent corriger les problèmes des autres parce qu'ils savent identifier les problèmes de tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'intelligence là-dedans. Et ce n'est pas récent le fait qu'ils essayent d'utiliser toute cette data. Ils vous ont mis Google Fit sur vos téléphones pour connaître vos niveaux de santé. C'est quelque chose qui est hyper qualitatif, qui vous donne des tonnes d'informations sur votre santé parce qu'il vous traque physiquement. Vous utilisez des montres connectées, des choses comme ça. Ça vous traque physiquement, mais Google récupère la data. Pourquoi ? Ben pour pouvoir faire une évaluation, par exemple, de l'intérêt de mettre en place des stratégies de coaching ou de régime ou autre sur telle ou telle population, parce qu'il y a ce besoin-là. L'information, c'est le pouvoir. C'est une phrase de Matrix, je crois. Donc, ils ont fait ça. Maintenant, pendant très longtemps, il y avait marqué « Ne soyons pas démoniaques, don't be evil ». Ils ont viré ça. Je crois qu'à la base, c'était une espèce de private joke qu'ils ont viré parce qu'ils se sont dit « Non, on va être un peu sérieux, on va... » Mais quelque part, ça a un peu inquiété tout le monde quand même que la boîte qui a récupéré toute cette data et qui a juré de ne pas en faire du mal a enlevé sa promesse discrètement. C'est comme Facebook qui a retiré la promesse « Nous serons toujours gratuits ». Vous savez, c'est gratuit et ça le restera toujours. C'était une phrase qu'ils avaient mis parce qu'il y avait des tonnes d'arnaques qui tournaient à l'époque sur le fait de faire payer Facebook. Il y avait des rumeurs qui tournaient là-dessus, donc ils ont ajouté cette phrase parce que leur business model était solide. Sauf que Apple a mis en place un système de filtrage de trackers qui fait que Facebook a perdu 10 milliards d'un coup en ne pouvant plus traquer comme il fallait les utilisateurs, et ça lui a nuit énormément. Et donc, à côté de ça, ils sont en train de mettre en place, là maintenant tout de suite, hein, c'est annoncé pour le 1er novembre, une formule payante qui existe et qui permet d'enlever les publicités et d'arrêter le tracking. Voilà, donc pour les plus engagés d'entre vous, c'est faisable de payer pour ne plus avoir de pub et ne plus être targeté. Enfin, ça, oui, bah oui, logiquement. Donc voilà. Et donc, ils ont enlevé cette phrase. Donc maintenant, quand Google enlève Don't Be Evil, on peut se poser la question. C'est quand même pas rassurant. Donc Google, en fait, utilise son moteur de recherche pour vous traquer et revend les données à des annonceurs pour vous targeter. Bon, ça en soi, c'est tout à fait logique comme business. Ils ont développé des agendas pour pouvoir connaître vos habitudes. Ils ont développé des boîtes mail. Et c'est les meilleurs du monde à chaque fois, hein. Meilleur agenda du monde, meilleure boîte mail du monde. C'est vraiment des trucs qu'on ne peut pas dépasser parce qu'ils ont investi sans compter, parce qu'ils gagnaient de l'argent par le tracking. Donc, le produit est gratuit et il est le meilleur du monde parce qu'il est financé par le bénéfice qu'ils font en prenant vos données. Bon, est-ce que c'est immoral ? C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'ils font des données ? Si c'est pour améliorer ma vie, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si c'est pour me vendre des choses dont j'ai vraiment besoin, pourquoi pas ? C'est pas déconnant. Mais il faut se méfier de ça un petit peu, il faut se poser des questions, mais il faut pas dire oui, il faut pas dire non. Il faut rester un peu critique par rapport à ça. Il faut écouter les gens qui s'y connaissent aussi, ça peut servir. Et donc, ils vous ont mis encore plein d'autres outils, hein. Google Maps permet de connaître le trafic en temps réel, parce que Google Maps renvoie de l'information de toutes les personnes qui utilisent Google Maps au moment où elles l'utilisent. Donc Google arrive à avoir la position des téléphones, leur mouvement, leur vitesse, et donc connaît les trafics, et donc peut faire des recommandations commerciales. Donc c'est tout ça est très intelligent, c'est une énorme machine publicitaire, Google. Et à côté de ça, elle a une démarche assez sincère, parce qu'elle essaye quand même de faire des très bons produits, et de faire de la recherche, et du développement, et de développer des nouveaux usages, etc. Donc, tout ça repose sur le fait que les gens viennent trouver leurs réponses sur leur site internet. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, ce qui est important de comprendre, faut toujours se poser la question du business model de ce que vous utilisez pour vraiment savoir quelle est la relation que l'entreprise a avec vous au moment où elle l'a. Bon. On a Google SGE qui arrive. Et Google SGE, c'est... Alors, vous aviez le SEO qui était le Search Engine Optimization, donc Search Engine, moteur de recherche, qui donc donnait des résultats qui étaient des pages. Et maintenant, SGE, c'est Search Generative. Et donc là, c'est tout simplement l'équivalent de ChatGPT qui s'appelle Bard chez eux, qui est connecté à Internet et qui fait la recherche pour vous, la synthèse, et qui vous donne la réponse à la question que vous avez posée. Bon, donc... Google dit que ça ne correspond pas à tous les usages. Il va y avoir des cas où on va avoir toujours l'occasion de donner des pages, parce que c'est ça le plus important, et des cas où on va répondre tout simplement la réponse à la question que la personne se pose. Et puis, on va mettre des pages en dessous. Chose qu'ils font déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le feature snippet ou la position zéro, qui est cette espèce de petit extrait de texte qui apparaît et qui est bien pratique, qui vous donne la réponse à votre question en vous donnant un extrait d'un texte avec le lien vers la page qui vous permet de recontextualiser l'extrait du texte. Donc ça, on est tous contents, on l'utilise beaucoup. Ça nuit considérablement à la fréquentation puisque les gens n'ont plus besoin d'ouvrir la page pour avoir la réponse. Mais en plus, ils nous ont rajouté un petit listing type FAQ où une intelligence artificielle a généré des questions à partir de la requête et à chercher des extraits à droite à gauche qui répondaient à la requête aussi. Donc, vous posez une question genre comment faut-il aller de Lisbonne à Malte, par exemple, quel est le chemin le plus agréable ? Et vous pouvez avoir une dizaine de propositions différentes venant de sites différents qui sont cataloguées par extrait. Donc, on y est déjà pas mal quand même. Hein. Du côté génératif, moi, ça devient rare. Enfin, c'est plus qu'une fois sur deux que j'ouvre une page, parce que Google me donne déjà la réponse. Donc là, la génération, c'est carrément Google qui vous explique le truc, qui vous donne la réponse. Et donc, vous avez encore les pages en dessous ou sur le côté, mais ça vous donne la réponse. Et Google dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, les SEO... Tout va bien, les sites internet, tout va bien, les sites de trafic et de trucs comme ça, vous inquiétez pas, vous allez continuer à avoir du trafic, les gens vont continuer à venir chez vous, oui, oui, oui. Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a une question, j'ai eu une discussion là-dessus avec quelqu'un sur LinkedIn il y a deux jours, où il disait, faut pas s'inquiéter, faut optimiser vos textes, rajouter les balises, bidules et trucs pour que Google repère davantage ce que vous faites de manière à ce qu'il puisse vous proposer dans les réponses SGE. Voilà, donc il va vous donner une explication et puis il va vous citer en source, ça va être bien. Vous allez voir, ça va augmenter le trafic. Et j'ai répondu à cette personne-là. On est en train de changer d'époque. On est en train de changer d'époque. C'est-à-dire que l'usage de ChatGPT, de GPT-3 en particulier, l'usage majoritaire à 70%, c'est de la recherche. Les gens posent des questions à ChatGPT pour qu'il leur explique des trucs. Vous pouvez demander à ChatGPT un truc tout simple. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous voulez séparer, moi c'est mon cas, donc peut-être que vous, ça vous est jamais arrivé, vous voulez séparer votre compte Instagram de votre compte Facebook. Parce qu'à un moment donné, vous avez trouvé que c'était une idée chouette, vu à point où il avait insisté, vous avez trouvé que c'était une idée chouette de lier les deux. C'est peut-être parce que j'ai des comptes professionnels, alors je ne sais pas si vous, vous avez ça aussi en tant qu'utilisateur simple. Et puis, je veux enlever ça. Sauf que voilà, il y a un dark pattern. C'est-à-dire que Facebook ne veut pas qu'on fasse ça. Mais en même temps, légalement, il est obligé de l'autoriser. Donc, il a planqué le bouton. Ça s'appelle un dark pattern quand ils font ça. Donc, j'ai pris ChatGPT et je lui ai dit, je veux faire ça. Comment je fais? Et il me dit, ah oui, voilà où ça se trouve. Et il m'a cité donc le menu, le réglage, le sous-réglage, la catégorie et le bouton qui était caché derrière. Oh là là, il y a un... Ah oui, si, on le connaît celui-là. Il y a un gros chien. Mais c'est un gentil. C'est un braque. Je crois. Lily, tu le défonces pas. Hein. Et donc, bon, je vais croiser des gens, donc je ne vais pas forcément parler. Ça va paraître un petit peu bizarre. Mais en tout cas, ChatGPT sert essentiellement à ça aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Lily, allez. Voilà, elles sont passées comme deux princesses, l'une à côté de l'autre sans se regarder. C'était beau. Bref. Donc, je raccroche les wagons, j'ai un petit blanc. Une seconde, vous devez être là en train de hurler dans votre téléphone le sujet sur lequel j'étais. Le dark pattern, voilà. Donc, en fait, Facebook, ChatGPT est très souvent utilisé pour faire des dépannages ou pour amener des solutions, pour amener des recommandations, pour écrire des petits textes dont on aurait besoin, pour savoir comment on fait telle ou telle chose, etc., etc. Donc, pourquoi pas? Mais déjà, là, c'est intéressant, on a une tendance qui est énorme. Et Microsoft s'en est saisi immédiatement. Il ne faut surtout pas croire que Microsoft s'est amusé bêtement à mettre 10 milliards sur la table pour pouvoir avoir l'exclusivité de l'usage de GPT-4. Il a créé Bing Chat qui a gagné énormément en popularité, même s'il est plus que moyen dans ses résultats et pas du tout fiable. Cependant, il donne des liens et ça c'est cool. Donc des fois, on a des bonnes pioches grâce à lui. Je me souviens que j'avais fait une recherche sur un truc, c'était Aya la petite sorcière. Non, Aya à l'école des sorciers. Aya, je sais plus. C'était un Miyazaki, mais pas un Miyazaki papa, un Miyazaki enfant. Et c'était un des premiers films Ghibli en 3D. Et je l'ai vu et j'ai bien aimé. J'ai bien kiffé, même si je reconnais plein de faiblesses. Je trouvais qu'il y avait un peu la petite saveur Miyazaki. On est le jour où le garçon et le héron sortent au cinéma. Juste le dernier Miyazaki de Papa Miyazaki est là. Papa Miyazaki qui est très vieux. Et le film a l'air extraordinaire. Donc allez-y, foncez. Et donc, le truc, c'est que le film Aya, petite sorcière, je ne sais plus quoi, se finit de manière extrêmement abrupte. Elle ouvre la porte, oh, il y a une méchante qui est là, ou c'est peut-être une gentille, on ne sait pas, musique, enfin. Donc tu te dis, bon, il y a une suite, c'est sûr. Donc j'ai demandé quand est-ce qu'il sortait la suite. Le problème, c'est que le film a fait un four, vraiment, hein, tant critique et autres. Donc est-ce que Ghibli assume et sort une suite quand même pour boucler l'histoire, histoire de ne pas rester sur un truc pas fini, ou est-ce qu'ils font ça? Eh bien, il n'y a pas d'infos. J'ai fait plein de recherches sur Internet, il n'y a pas d'infos. Et donc, j'ai travaillé avec Bing Chat. Je lui ai posé ces questions-là. Je lui ai dit, voilà, cherche, trouve quelque chose. Et Bing Chat m'a sorti un site anglais proche d'un truc anglais qui était proche de Ghibli, qui a expliqué que oui, il y avait bien quelque chose qui était en cours, mais qu'à cause du Covid, il y a eu une perte financière sur je ne sais plus quel truc, et donc que le projet a été gelé et qu'il sera remis en route plus tard, mais que Ghibli a bien l'intention de finir cette série-là, bien sûr, ça se remet complètement en question n'importe quand, mais il y avait une seule source. Vraiment, il n'y en avait qu'une. La formation a été reprise par personne, parce que tout le monde s'en fout de ce film. Et bon, voilà. Donc c'est là où l'intelligence artificielle, ben, je me dis, ok, j'ai trouvé un usage. Parce que j'aurais vraiment passé des heures à compulser des informations. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. L'intelligence artificielle qui cherche à notre place, j'achète, ça m'intéresse. Mais l'intelligence artificielle qui répond à mes besoins les plus essentiels et les plus immédiats, genre, on me demande d'écrire une lettre de recommandation pour telle ou telle personne, très bien. Oh là, il y a un gros chien là. Très bien, et je ne sais pas du tout comment formuler ça, donc je vais demander à ChatGPT de me donner les grandes règles pour que je puisse le faire comme il faut moi-même. Bonjour madame. Ah, elle est là. Merci de l'avoir attachée.
Ah oui, vous avez le toutou.
Oui, c'est pour ça.
Là, oui.
Là, oui. À vous aussi. Oui, donc, ok. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, bah, y a un usage immédiat qui est de répondre à mes besoins. Si jamais je veux savoir, si vous voulez savoir comment on fait un CV, si vous voulez savoir comment on s'adresse à l'administration française, si vous voulez savoir même quels sont vos droits pour toucher telle ou telle aide, ou comment est-ce qu'on complète ce dossier. Ou tiens, il y a une fois, c'était assez génial, vous savez, des fois, il y a des formulaires qui vous posent des questions. Genre, oui, dans quelle catégorie êtes-vous? Est-ce que vous êtes la 24B, 34? Regardez dans la liste, tout ça. Eh ben, j'ai copié la question, je l'ai donné à ChatGPT, il a dit, ben vous êtes ça. J'ai dit, ah ben, je suis allé vérifier parce que pour le coup, je savais exactement où chercher. Tac, c'était bon. Allez hop, on y va. Pour l'instant, je vérifie, mais un jour, je vérifierai plus. Parce que, ben, tout ce qui est organisationnel ou ce genre de truc qui nécessite des codes, des connaissances, des nomenclatures, des classifications, des process, des procédures, il me les donne. Auparavant, on faisait quoi? On allait sur Google, on tapait la question, on avait des pages. La moitié des pages ne correspondait pas à notre besoin parce que notre besoin était très spécifique. On fait le tri, on finit souvent par passer un coup de fil à quelqu'un pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire une bêtise parce que des fois, il y a de l'argent qui est en jeu, des fois, il y a des conséquences. Donc, on doit faire attention. Et donc, ben là, on a une intelligence artificielle qui nous explique. Alors, si elle dit la vérité, si elle dit la vérité, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, moi, là où je voulais en venir dans tout mon raisonnement, c'est... Regardez. Au début, on avait Internet. C'était des sites Internet et on avait des journaux papier qui nous faisaient, des journaux, des magazines spécialisés Internet, qui nous faisaient la liste des URL les plus intéressantes. Puis, on a eu les premiers moteurs de recherche qui n'étaient pas des moteurs de recherche, mais des annuaires. Et donc, les gens qui avaient des sites Internet faisaient le tour des annuaires par eux-mêmes pour être trouvables. Bon, à un moment donné, il y avait trop de choses dans les annuaires et finalement, comment savoir lequel était bon, comment savoir lequel ne l'était pas. Donc, arrivaient des moteurs de recherche qui ordonnaient à leur manière et qui permettaient de simplifier le fait de trouver l'information parce que ça donnait le bon site. Puis, du bon site, on est arrivé sur la bonne page. Puis de la bonne page, on est arrivé sur le bon contenu. Donc on a à chaque fois un moteur de recherche qui a pour défi de trouver dans l'immense base qu'est Internet la réponse à votre question. Donc on est bien d'accord. Là, je m'arrête un instant parce que il faut juste prendre conscience de quelque chose. Le moteur de recherche Google n'est pas du tout la finalité de notre besoin. Le moteur de recherche Google est une négociation avec la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des tonnes de pages à lire et que la seule chose qu'on est capable de faire, c'est indiquer la page. Maintenant, on est capable d'indiquer l'extrait. Un gros progrès, immense progrès. On est capable d'indiquer l'extrait, mais pas la page. Enfin, mais que la page. La page et l'extrait. Là, maintenant, on arrive enfin au point final qui est, point final, c'est peut-être pas le point final, mais on s'approche encore du point final, qui est, si j'ai un besoin, quelqu'un me répond. et m'explique que je n'ai pas à lire 200 pages qui servent à rien, que je n'ai pas à me poser des questions sur tel nom de domaine, que je n'ai pas à avoir des pop-up qui me sautent à la gueule pour me dire qu'il faut que je m'abonne à tel ou tel truc si jamais je fais ci ou ça. Non, 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 c'est juste quelque chose qui me répond. Et donc, ChatGPT, c'est pour ça qu'ils ont sorti l'appli téléphone. Vous vous êtes pas demandé à quoi ça sert une appli téléphone ? Je veux dire, c'est un objet conversationnel, ça va, les gens, ils vont en faire quoi ? Ils vont dire « Salut, ça va ? » Il répond « Ça va, ok ?» Ben non, les gens, ils ont commencé à poser des questions et ChatGPT a commencé à répondre. Aujourd'hui, ChatGPT fait quoi ? Il génère des images avec DALL-E. La finalité, vous croyez que c'est quoi ? La finalité, à court terme, c'est qu'il génère un schéma pour vous, une image, une illustration, un plan, des choses comme ça, qu'il affiche de l'information qu'il crée de zéro. C'est ça le but. Et puis à terme, ben, ce sera avoir quelque chose de 100% interactif. J'oubliais, ChatGPT parle. Il parle. Vous avez un nouveau petit bouton dans l'application quand vous payez, bien sûr, GPT-4+, là, GPT+. Vous avez un petit bouton qui fait que vous avez une grosse boule qui apparaît sur l'écran. Et quand vous parlez, elle vous écoute. Puis après, elle parle et elle vous répond. Et ils sont en train de travailler à raccourcir les temps d'attente entre les deux qui pour l'instant sont de 1, 2 secondes, 3 secondes. Et donc, ils veulent que ça devienne instantané. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait un brainstorm avec ChatGPT, c'est génial. On pose le téléphone et on dit « Ouais, voilà, j'en suis là, j'aimerais faire ça. Ah, vous avez pensé à ça? Tiens, c'est pas bête, machin. » Extraordinaire, c'est comme avoir quelqu'un 100% focus sur toi qui te dit « Ouais, bien sûr, je vais t'aider, pas de problème, je te pose des questions, etc. » C'est génial. C'est des vrais usages. Et bientôt, bien sûr, on aura de la compagnie. Quand on va parler, on a tous les assistants, les Alexa, Siri et Google Assistant et autres, Bixby, j'en sais rien, les autres. On a toutes ces machines qui sont en train de récupérer l'intelligence artificielle générative en disant, ben, on va pouvoir discuter. Je veux dire, c'est quand même vraiment bien de pouvoir poser une question à quelque chose qui vous répond et qui vous dit pas, il faut cliquer là, il faut ouvrir là. Vous savez que... Si vous utilisez Siri en France, vous avez que 30% des fonctions de Siri. Aux États-Unis, Siri répond à tout, quasiment, et comprend tout. Nous, 9 fois sur 10, il sort une série de liens et il dit « Oui, cherchez là-dedans, ça doit être là. » On lui dit « Oui, comment est-ce qu'on fait ça ? Hop là, cherche là-dedans. » Bon, bah, voilà, terminé. Et ben, on dit à ChatGPT, ChatGPT, il répond un truc, sauf que des fois, il se plante. Mais il répond. Et quand on dit aux gens, tu préfères Google, tu préfères Siri ou tu préfères ChatGPT ou Alexa d'ailleurs qui répond bien, Alexa répond des trucs bien, pour répondre à ta question, les gens aujourd'hui disent ChatGPT. Pourquoi ? Mais parce qu'on peut en discuter 2 heures du sujet. ChatGPT, il ne va pas dire à un moment donné, oh ça va, t'es lourd, c'est bon, je t'ai déjà expliqué 30 fois, ça va, qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je te raconte ? Non, on lui dit, réexplique-moi comme ça, réexplique-moi comme si j'avais 6 ans, réexplique-moi comme si j'étais telle chose, je ne sais pas. Et il y a des fois des choses, vous savez, je vous donne un exemple d'usage. Je m'intéresse en ce moment aux Core Web Vitals, qui sont les critères qualitatifs de Google. Et à un moment, je vois qu'il me dit que le nombre de DOM, D-O-M, est trop élevé pour pouvoir passer un des critères du Core Web Vitals. Et DOM, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, je copie la phrase, je la donne à ChatGPT, je lui dis, c'est quoi ça ? Et il me dit, bah, le nombre de DOM, c'est le nombre de blocs qui doivent être chargés, etc. Donc, c'est des éléments qui sont chargés sur la page et qui, finalement, ralentissent le chargement de la page et font appel à trop de code. Donc, il faut diminuer le poids de la page en termes d'éléments appelés. Et je dis, d'accord. Et donc, comment je fais ? Il me dit, bah là, il faudrait partir en commençant par enlever ces trucs-là, puis après cela, puis après, on garde ça, c'est essentiel. Et puis, je l'ai fait. Et maintenant, c'est bon, je rentre. Maintenant, ça va, je satisfais les critères. Mais mon expertise, alors je ne suis toujours pas au niveau d'un référenceur spécialisé qui s'y connaît vraiment à fond dans la technique, hein. Ça ne sera jamais le cas. Mais ChatGPT, si. Si, si, ChatGPT, il est cette personne. Donc je peux la questionner. Je ne peux pas lui dire « fais-le pour moi ». Ça, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on aura toujours des freelances. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut toujours que ça rentre par notre cerveau, qu'on comprenne des trucs, c'est fatigant, ça bouffe de l'énergie, on n'a pas le temps. Donc, pour l'instant, on est protégé de ça. Mais ChatGPT sert à répondre à toutes ces choses-là. Et entre GPT-3 et GPT-4, c'est même pas la même danse. GPT-3, il est très bien pour les petits usages. GPT-4, on attaque du lourd dans les domaines techniques et les trucs comme ça. Il n'y a aucun problème, il nous suit. Donc, et il y en a d'autres qui arrivent, hein, GPT-5 et compagnie. Et puis, on a aussi Google Gemini qui va arriver. On a Microsoft qui vient d'annoncer là que Copilot, donc GPT-4, arrivait dans Word et dans Excel. Juste GPT-4 dans Excel. Il est capable d'écrire les formules. Juste, voilà, explique ce que tu veux et les formules apparaissent et le tableau fonctionne. Juste le rêve. Bref, tout ça est en train de démocratiser les savoirs. Internet, c'est comme ça que j'aime bien décrire les intelligences artificielles. Internet est devenu vivant et on peut lui parler. Oh là là, il y a des vététistes qui arrivent à toute blinde. Et moi, je ne sais pas où est mon chien. C'est la grande spécialiste pour se jeter sous les roues des loups. Hop. Bonjour. Bonjour. Ah, le milieu de semaine, quel plaisir en forêt. Ah, bon, bah mon chien, il est quelque part, donc ça va. Je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, là où je veux en venir, et j'espère que vous avez compris le sens, c'est que l'avenir de Google, s'ils installent le SGE, est irréversible. Le destin est scellé. Les gens veulent des réponses rapides. C'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on nous raconte notre vie ou qu'on blablate des trucs. On veut pouvoir profiter de notre vie et ne pas passer 6 heures à faire des recherches. Quand on écrit des articles, nous en tant que rédacteurs web, on veut de l'information sûre et vérifiée, on veut comprendre le fond des choses, et pour ça, on n'a pas envie de lire 80 pages sur le sujet. On a envie de quelqu'un qui nous fait une conférence sur le sujet. Mais notre sujet à nous, celui qui nous intéresse, celui qu'on doit traiter. On a besoin de quelqu'un qui va répondre en tant qu'expert à toutes nos questions, y compris les plus bizarres, y compris les plus détaillées, y compris les choses. Moi, je me souviens que j'avais fini un truc en disant « Oui, alors maintenant que j'ai bien écrit tout ce que tu m'as dit, finis par une anecdote intéressante sur le sujet. » Il me dit « Le savais-tu ?» Et puis, il me raconte un truc. Et je dis « Putain, c'est vrai, ça ? C'est fou ?» Et j'ai rajouté ça dans mon article. Et le client, il m'avait dit « Écoute, tu m'as appris un truc sur mon métier. » Donc, moi, ça me va. Ça me va. Parce qu'il faut des pilotes à ChatGPT. C'est ce qu'on sera. Mais maintenant, où est-ce qu'on va s'afficher ? C'est ma grande question. Aujourd'hui, tout le monde sort des applications. Est-ce que c'est ça l'histoire ? Tout le monde veut être sur Google Actualité. C'est ça l'histoire ? Est-ce qu'on va arrêter avec finalement tous les articles SEO qui sont là pour répondre à des questions et des requêtes et qu'on va commencer à travailler uniquement sur des articles qui attirent la curiosité des gens ? Chose que ChatGPT ne peut pas faire. A priori, ChatGPT démarre par une question. Mais en tout cas, ça fera l'objet d'un autre podcast, j'en suis sûr, où on aura l'occasion de réfléchir ensemble là-dessus, le temps que je mature un peu encore mes raisonnements. Mais mon point de départ de réflexion, c'est de dire « Google n'est pas une finalité à l'heure actuelle. Google est une transition. Le modèle « Je te donne des pages » comme réponse à tes questions », c'est un modèle transitionnel, parce que ce n'est pas du tout optimal pour un humain. Les humains, ils n'ont pas envie de lire. Ils lisent déjà quasiment plus de livres, ils lisent quasiment plus de journaux, ils lisent que des articles qui sont hyper putaclic et hyper dynamiques. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience, hein, vous achetez Libération ou Le Monde ou ce que vous voulez comme journal. Et puis, vous le comparez à Google Actualité, vous vous ennuyez dans le journal. Les titres ne vous attirent pas, vous n'avez pas le réflexe, vous parcourez le journal, vous le rangez. Or, il est hyper intéressant, mais il faut faire l'effort de s'investir. Mais dans Google Actualité, les textes sélectionnés, les articles sélectionnés sont putaclic. Ça vous donne envie. Donc, voilà, la question, c'est ça. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné, et là, je vous ouvre à un sujet extraordinaire qui est, va-t-on arriver dans la fameuse ère du post-interface ? C'est-à-dire, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus d'écran qui affiche des trucs. On a des voix qui nous parlent, des choses qui s'affichent à la demande, des illustrations, des actions qui se lancent quand on les demande, etc. Bonjour. Et c'est peut-être ça la suite. Internet va se diluer tout simplement dans nos vies. Ça va être dans notre montre, dans notre téléphone comme ça l'est aujourd'hui, dans nos vêtements. On a vu des vêtements connectés qui arrivaient, c'est Adobe qui a présenté ça, et qui permettent de changer les motifs en fonction des humeurs, ou en fonction des mouvements, ou en fonction du lieu. C'est pas mal. Et on est au début de la question de tout ce qu'on peut faire maintenant qu'on a connecté le monde. C'est l'étape suivante d'Internet, et très probablement, les ordinateurs vont disparaître. Au bénéfice peut-être de ce que Apple a annoncé, c'est-à-dire les casques de virtualité, casques virtuels mixtes, de réalité augmentée. C'est peut-être ça ce qui va se passer. Imaginez une intelligence artificielle à l'intérieur d'un casque de ce type-là. À quoi ça ressemble votre travail si vous avez des bureaux devant vous avec des employés qui travaillent pour vous et ils sont tous virtuels et animés par des intelligences artificielles qui comprennent exactement ce que vous voulez, hein? Ça change quoi? C'est peut-être ça la suite. Je vous laisse y réfléchir. Mais en tout cas, Google SGE inquiète tout le monde à juste titre, parce que c'est probablement la fin du Google qu'on connaissait, et donc de tous les modèles économiques qui en dépendaient, dont nous faisons partie en tant que rédacteur web. Donc restez attentifs, parce que ça va faire du bruit. Je vous dis à bientôt.